Yeah, okay, let's go.
Entre les pages. Sur Radio G. Chers amis auditeurs, bonjour et bonjour au public présent pour cette émission particulière, puisqu'elle est enregistrée le 11 novembre à la librairie Richer, pendant la manifestation Richer 49. Émission particulière parce que vous ne retrouverez pas les rubriques habituelles, émission encore plus particulière puisque c'était une table ronde que nous vous proposons d'assister, avec pas moins de 4 participants. Frédéric Germano, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur de nombreux livres, dont La Chambre d'écho, ou ce journal pauvre qui relate l'année de liberté que vous vous êtes offerte. Vous habitez l'Anjou et vous animez le blog L'Atelier du Passage.
Oui, c'est ça, j'habite Angers même.
Roxane Dambre, alors j'ai longtemps hésité sur votre nom parce que je ne savais pas si c'était Dambre d'Ambré. Vous êtes auteur de Feel Good Livres, comme vous-même les caractérisez. Vous avez écrit la série animée, publiée au livre de poche, dans le genre fantastique, ou la série Sixteen, dans le genre science-fiction, pardon. Vous habitez Angers, mais là, je crois que nous allons y revenir.
Absolument.
Martin Page, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur. Alors, vous couvrez tout le spectre des publics. Votre dernier livre, Le permis d'être un enfant, est... je vous le dis, plébiscité. En tout cas, à l'émission Entre les pages, c'est celui qui a reçu le plus d'avis extrêmement favorable.
Merci.
Vous ne faites pas que dans la fiction. Vous faites aussi dans la philosophie. Vous êtes par ailleurs éditeur. Vous avez créé la maison d'édition Monstrographe. Et vous habitez Trélazé.
C'est ça. Alors, philosophie, c'est un peu trop, c'est un mot un peu trop grand pour moi. Disons que j'écris des essais, on va dire.
Oui.
Mais je ne suis pas philosophe.
Vous écrivez des essais sur lesquels vous réfléchissez, en fait. Vous portez votre réflexion.
Ouais, c'est un écrivain qui écrit des essais.
D'accord.
On peut dire ça.
Donc, on reconnaîtra l'humilité de Martin Page, mais ça ne peut pas nous surprendre. Pour cette table ronde, j'ai retenu un thème simple, écrire ici. Cela pourrait passer pour un sujet bateau proposé par un jury d'examen un peu fatigué. Mais derrière ce mot « écrire » et cet autre « ici » se cache bien plus de richesse qu'on ne peut le penser. Écrire, oui, mais écrire quoi? Ou écrire pour qui? Ou encore comment? Et puis, il y a l'inévitable « pourquoi ?» Et même aujourd'hui, le « avec quoi ?» qui prend une place certainement particulière. Mais le « ici », est-ce un « ici » choisi ou un ici subi? Peut-être est-ce un ici rêvé ou alors un ici indéraciné? Peut-être encore, selon la jolie expression de Marielle Massé dans son livre Les Cabanes, est-ce un ici déterrestré ou un ici reterrestré? Vous le voyez, aux pistes ouvertes par la déconstruction chère à Jacques Derrida s'ajoutent celles de l'anthropologie et de la géographie et certainement beaucoup d'autres encore. Pour démarrer cette table ronde, à tout seigneur, tout honneur, et puisque nous sommes dans votre royaume, vous pouvez nous donner quelques informations sur la librairie Richer, Nicolas Auvinet ?
Oui, bonjour. Quelques informations, on va remonter le fil du temps, dire que la librairie Richer a été créée en 1924, que c'est une institution, effectivement. Parlons essentiellement de ce salon, c'est la 5e édition. la cinquième édition du plus court salon du monde. Voilà, le temps d'un après-midi, de 14h à 19h. Pas beaucoup de librairies, je pense. Alors, peut-être que ça doit exister par ailleurs. Mais voilà, nous avons 49 auteurs, illustrateurs, artistes qui sont là. Et nous, ça fait quelques années. En 2011, nous avions commencé un salon où nous avions accueilli 80 personnes. Échaudés par cette expérience, parce que ça faisait beaucoup d'organisation, nous avions mis du temps avant de vouloir réitérer cette expérience et nous avions fixé à 49 auteurs. Nos critères de sélection, c'était de mettre en avant le patrimoine local. Alors quand je dis patrimoine local, c'est à la fois les auteurs qui viennent de l'Anjou ou alors des auteurs qui parlent de l'Anjou. Et l'un des critères, effectivement, c'est aussi qu'il y ait une nouveauté dans l'année. Mais on a depuis des années, nous, un rayon à la fois régionalisme, où même on le sent, Martin Page en est parfait exemple, Roxane Dambre aussi, Madame Germano aussi. Nous avons des auteurs qui sont vraiment présents au-delà de la sphère locale. Mais malgré tout, ils sont d'ici. On a voulu souligner ça et célébrer aussi la richesse culturelle que nous avions en Anjou, donc d'où la présence de ce salon.
Comme quoi les grandes idées se rencontrent, puisque nous-mêmes, au niveau de l'émission Entre les pages, nous abordons sous cet angle-là aussi ce territoire qui nous est cher. Pour commencer cette table ronde, et c'est un peu une question qui va s'adresser à tout le monde, comment êtes-vous venu à l'écriture, Frédéric Germano?
Je crois que je suis venue à l'écriture par la lecture, en fait. J'ai toujours été une très, très grande lectrice, très grosse lectrice. Et ça, depuis que je sais lire. Et je pense que le passage s'est fait assez naturellement à un moment donné où l'envie de faire comme des auteurs que j'aimais particulièrement, c'est tenter cette expérience-là avant d'en venir à des choses plus personnelles. Mais le glissement s'est fait assez progressivement et je pense que ça vient vraiment de là.
D'accord, de la lecture.
De la lecture à l'écriture. Ouais, et de l'admiration que j'avais pour certains auteurs. Je pense à Duras en particulier qui m'a énormément marqué quand j'étais adolescente. Et qui m'a marqué dans mes premiers pas d'écriture. Et que, voilà,
quoi de Duras quand on est adolescent?
Moderato Cantabile, j'ai commencé par celui-là, j'étais en seconde et j'ai compris ce qu'était la littérature avec Duras, en fait. J'ai compris que la littérature, c'était pas juste raconter des histoires, mais que c'était un style, que c'était un rythme, et ça je l'ai compris par la lecture de Duras et ce livre-là en particulier, et Duras m'a jamais quitté. M'a quitté dans l'écriture, mais jamais dans la lecture.
Donc. Et vous, Martin Page, comment êtes-vous venu à l'écriture?
Alors sans doute parce que j'aimais lire, les écrivains ont compté pour moi. Et c'était aussi... Alors, je n'étais pas un très, très bon élève. J'habitais à la banlieue sud de Paris. Pour moi, c'était une question de survie, en fait. Il fallait que je trouve un moyen pour m'en sortir dans la vie. Donc, j'avais une rage folle. Et cette rage, c'est greffé à la littérature. Et donc, voilà, pour moi, c'était vraiment une question de survie. Il fallait que je publie. Il fallait que je sorte de cette triste banlieue. Il fallait que je trouve une place, n'importe laquelle, dans la société. Et la littérature, ou l'art en général, pour les personnes un peu désaxées, c'est un lieu d'asile, on va dire. Mais voilà, pour moi, c'était juste sortir du désespoir et tenter de survivre, quoi.
La rage devait être vraiment très, très forte, parce que quand on regarde votre bibliographie, elle est impressionnante.
Ouais, je pense que c'est difficile de généraliser, mais ce qui nous mène à l'écriture dit peut-être aussi de la manière dont, pour moi, la manière dont l'envisage, tout ce qu'on peut publier, les champs qu'on veut explorer. C'est vrai que moi, je me suis fixé aucune limite de sujet, de champ, de genre, oui, d'âge et tout ça. Et sans doute, le désespoir... sans doute, l'origine de tout ça, c'est cette idée de survie à tout prix et de m'en sortir à tout prix. Voilà.
Et vous, Roxane Dambre, comment êtes-vous venue à l'écriture ?
Alors moi, c'est venu très tôt parce qu'en fait, moi, je suis une raconteuse d'histoires. J'adore raconter des histoires. J'adore voir les yeux des gens pétiller. J'adore les voir sourire. J'adore les entendre rire quand je raconte des histoires. Et l'écriture, pour moi, c'est le moyen de partager mes histoires avec le monde entier. Enfin, ceux qui parlent français, en tout cas, dans un premier temps.
Ah, mais vous êtes traduite. Vous êtes traduite à l'étranger?
Oui, je suis traduite aux États-Unis et bientôt en Chine. Donc aussi ceux qui parlent anglais et ceux qui parlent chinois.
Ça fait beaucoup de monde.
Ça commence à faire du monde, oui. Et si j'avais pas pu écrire, si j'avais pas eu ce moyen-là, j'aurais trouvé autre chose. J'aurais été comédienne pour raconter, pour monter sur scène et pour raconter des histoires vraiment au plus grand nombre. Donc c'est venu très tôt et j'ai vu que ça marchait et les gens, mes parents en premier, adoraient ce que j'écrivais. Donc voilà, c'est venu comme ça.
Alors, je me retourne vers vous à nouveau parce que j'ai dit en vous présentant tout à l'heure que vous écrivez des feel good livres. Je ne vous cache pas que cela m'interpelle. C'est quoi un feel good livre ?
Alors, feel good en anglais, c'est se sentir bien. Et les feel good books, les livres de comment on pourrait dire ça, les livres pour se sentir bien, de bien-être, c'est vraiment des livres pour rire. C'est des coups de boost, c'est des morceaux de soleil, c'est vraiment des romans où on rigole, où on sort de là en ayant la banane, en ayant la pêche, en se disant, mais en fait, la vie, elle est super.
Quand on va visiter votre site, on sent qu'il y a chez vous, une volonté, je dirais presque, d'efficacité dans l'écriture. Ça vous pose, ça
vous avez 3 heures.
Ouais, ouais, c'est ça. Alors, attendez, je réfléchis. Ouais. Moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de faire plaisir aux gens.
Oui.
Et je trouve que notre monde est assez noir quand on regarde la télé, quand on regarde le 20h. On a beaucoup de choses qui sont assez tristes. Et moi, mon but dans la vie, c'est que les gens soient un peu plus heureux. Il y a D'accord. des gens qui sont nés pour être des meneurs d'hommes. Il y a des gens qui sont nés pour soigner les gens. Et ben, moi, je crois que je suis née pour rendre les gens heureux.
Alors, ça me fait me retourner vers les autres participants. Est-ce que, alors, vous vous dites, j'ai envie de donner du bonheur. Hein. Est-ce que écrire, c'est faire plaisir au lecteur ? Frédéric Germano.
Je pense pas au lecteur quand j'écris, en fait. J'ai pas du tout de cette pensée. J'écris ce que j'ai à écrire, je crois. Ça vient beaucoup de l'intime. Il y a une grande part de mes livres qui sont vraiment issus d'une matière intime, pas que. Il y a aussi la matière géographique dont on parlera peut-être et les lieux et la nature, etc. Mais il y a une sorte de nécessité en fait dans l'écriture, mais qui m'appartient. Elle est dans un premier temps, en tout cas au moment de l'élaboration du texte, elle est pas du tout tournée vers le lecteur. Après, que le lecteur il y prenne plaisir à la lecture, j'en suis évidemment contente, mais j'y pense pas quand j'écris, en tout cas.
Et vous, Martin Page, dans votre présentation, vous avez dit que ce qui animait votre écriture, c'était la rage. J'insiste pas là-dessus, mais je pense que ça caractérise une manière de faire. Le lecteur, par rapport à vous, il est quoi quand vous écrivez ?
Oh mon Dieu, mais quelle... C'est une question tellement compliquée.
Oui, mais c'est bien pour ça que vous êtes là ?
Non, je ne sais pas très bien. Bah, oui. Le lecteur est là parce que je suis un lecteur, déjà. Alors, je vais mentir pour dire, si je disais que les lecteurs ou la lectrice n'existaient pas, bien sûr que dans une part de mon esprit, il ou elle existe et est là. Je sais qu'un livre va être reçu, comme je sais qu'il va être reçu par la critique, par mon éditeur, par... J'écris pas dans une boîte de pétri...
Pétri,
dans une boîte de pétri. Enfin voilà, tout ça est très impur, quoi. On est traversé par plein de courants complexes. Ensuite, savoir exactement de quelle manière ça compte, je sais pas très bien. Par rapport au plaisir... Ce qui est sûr, c'est que, oui, pour moi, la notion de plaisir est très importante. Alors peut-être que moi, ce que je mettrais dans le plaisir, c'est pas quelque chose qui irait à d'autres personnes. Mais par exemple, le fait de faire trembler les choses, de mettre un peu le bordel, tout ça, pour moi, c'est du plaisir. Voilà,
je pensais. Créer du désordre.
Ouais, créer du désordre, c'est aussi du plaisir. Le plaisir, ça peut être des choses tellement différentes. Et sinon, je pense que j'ai une littérature, je me sens proche des écrivains qui ont une écriture, qui écrivent des livres qui sont de l'ordre où la part émancipatrice est importante. Je pense à James Baldwin, je pense à, ou même Oscar Wilde, enfin il y en a plein, Albert Camus, etc., etc. Donc je pense que ouais, le plaisir est aussi émancipateur, en fait. Et que moi, je vous parlais un peu de mon désespoir originel, c'est il est vers aussi de ma survie, en fait,
oui,
que de créer, d'avoir du plaisir et Voilà.
Donc le plaisir, il est à la fois dans l'écriture et dans le plaisir qu'on peut donner au lecteur.
Oui, enfin, il est partout. Oui. Tout ça est tellement compliqué à expliquer.
Mais je pense que si on ne prend pas de plaisir en écrivant, on ne donne pas de plaisir au lecteur non plus.
Il faut parler dans les micros, s'il vous plaît. Hein. C'est une décomposition sur les panneaux. C'est une émission de radio, je vous le rappelle. Hein.
C'est moderne, je suis habitué aux cavernes des hommes préhistoriques.
On avait bah, comment ça a très lasé.
On parlait dans des silex à l'époque.
Non, dans des ardoises.
Ouais. Non, je ne veux pas du tout lancer un débat, mais oui. Moi, je pense que... Enfin, en tout cas, moi, j'ai pu écrire des choses qui peuvent... Enfin, dans mon écriture, il y a des moments de plaisir, mais il y a aussi des moments où je galère, qui sont difficiles, où je rame, et qui sont difficiles, ça n'empêche pas qu'ensuite le lecteur peut prendre du plaisir à ça, en fait. C'est comme un metteur en scène sur un tournage peut être absolument épuisé, faire des choses rébarbatives. Le spectateur dans la salle ne verra pas, en fait, tout l'effort, les larmes et les cris de colère. Et voilà.
Frédéric Germano, j'ai l'impression qu'avec vous, on est plus proche, je crois, de la poésie et de l'autofiction. Alors, peut-être que ça va vous déranger, mais je vous imagine une proche... parenté avec Annie Ernaux. Oui, je vais jusque là.
La classe. Même,
hein. Ah oui.
Ouais. Ben, en tout cas.
Merci.
Est-ce que ce journal pauvre que vous avez écrit, il s'appelle Journal pauvre. Est-ce qu'il fait écho à l'Arte Povera?
Exactement, effectivement. Ça fait, voilà, il y a un clin d'œil quand même à cette pauvreté qui a été la mienne pendant un an, puisque je vivais sans revenu. Je raconte donc l'histoire d'une année sabbatique. Mais ça fait aussi tout à fait écho à l'Arte Povera, c'est-à-dire à l'art qui se construit avec des matériaux pauvres, qui peuvent être des matériaux de récupération. Notamment, et qui est voilà, qui est une démarche que j'aime beaucoup. Qui se pratique peut-être pas nommée telle quelle en littérature, mais voilà, l'expérience me tentait aussi de la pratiquer en littérature, qui est là dans le journal pauvre une construction sans narration, enfin sans personnage, qui relève donc du journal écrit bien sûr quand même, mais qui relève du journal, donc qui est plutôt une littérature qui est pas forcément destinée à la publication, peut-être une littérature pauvre.
Il a été publié, ce journal.
Et il a été publié bien sûr, ouais. Et puis il y a d'autres grands journaux qui ont été publiés, mais voilà, qui est pas forcément une littérature élaborée pour la publication, même si quand je l'écrivais il y avait quand même une élaboration, puisque je n'y mettais pas tout dedans, il y avait quand même un thème particulier, donc et puis voilà, une attention portée à l'écriture, mais en tout cas la référence à Annie Ernaux me touche énormément. C'est une écrivaine que j'aime vraiment beaucoup beaucoup, et qui a un talent énorme et une inventivité que j'atteindrai jamais, mais qui est voilà, fabuleuse, quoi.
Moi j'ai dit que ça faisait écho, enfin pour moi ça voilà, ça résonnait un peu quand j'ai lu quand je vous ai lu, sur une manière d'extrême simplicité dans l'écriture, c'est-à-dire que les mots viennent, se posent, et on n'est pas dans une écriture qui est très, très envahissante, ou on est vraiment dans une écriture que moi j'ai ressenti des émotions que j'ai éprouvées en lisant les livres d'Annie Ernaux. Je me retourne vers les autres parce que dans ce que vous dites, ce qu'on peut en entendre, c'est que vous mettez beaucoup de vous dans ce que vous écrivez. Est-ce que pour les autres, il y a beaucoup de vous dans ce que vous écrivez, Roxane?
Il y a une part de moi dans chacun de mes personnages, et mes livres sont tous des histoires que j'aimerais vivre. Oui. Alors quand je dis qu'il y a une part de moi dans chacun de mes personnages, tous mes héros sont...
J'essaye de m'imaginer où est cette part-là, mais...
Bah, par exemple, dans ma série Animae, l'héroïne me ressemble physiquement trait pour trait, ça c'est assez facile. Dans ma série Scorpie, l'héroïne est quelqu'un d'extrêmement gentil, et je suis aussi quelqu'un de gentil. Dans ma série Signée 16, mon héroïne aime les couleurs vives, alors là j'ai fait attention, suis bien tenue. Mais voilà, de façon générale, je suis habillée de façon un peu plus colorée. Voilà, donc toutes mes héroïnes ont un petit morceau de moi, et les méchants, ils ont tous une part de moi fantasmée. C'est-à-dire que les méchants sont tous moi si je n'avais aucune limite. Et c'est tellement jouissif d'écrire ce genre de choses.
Martin Page, quelle part de vous il y a dans ce que vous écrivez?
C'est drôle, pour rebondir sur ce que vient de dire Roxane, je viens de lire un article, pardon, excuse-moi, qui disait qu'il fallait se méfier des gens qui disaient gentil.
Il n'y a qu'à voir mes méchants pour comprendre.
Et, je sais tellement. C'est, un jour, il faudrait des débats avec des questions simples. Par exemple, la recette d'un gâteau au chocolat.
Oui, mais
très bonne question... recette de gâteau au chocolat. Oui, mais la part de moi qu'il y a dans mes livres.
Oui.
C'est, disons que mes livres m'aident à continuer à me construire, à grandir et à me constituer, en fait.
Mm-hmm.
Il y a un jeu entre mes livres et moi, parce que pour chacun de mes livres, il y a un enjeu existentiel fort,
mm-hmm.
et que ils sont, mes livres sont mes sparring partners, sont mes entraîneurs, sont ces drôles d'objets organiques qui continuent à me faire penser, grandir et changer, on va dire. C'est-à-dire quelque chose, voilà, de très organique, et la limite entre eux et moi est ténue. Voilà, ce sont des organes extérieurs d'une certaine manière.
Parce que quand on regarde votre bibliographie, quand on vous entend au début de cet entretien où vous parlez de rage, votre production est traversée d'enfants pour certains en difficulté, et votre dernier livre qui s'appelle Le permis d'être un enfant, et puis j'irais presque un peu plus loin. Vous avez ici, et c'est là où c'est délicat de vous interpeller, vous avez écrit aussi un livre qui s'appelle « Au-delà de la pénétration ». Donc on est dans des champs quand même complètement différents. Et tout d'un coup, moi, quand je vous entends là, finalement, je commence à raccrocher des bouts de ce que j'ai lu de vous et en fait ce que vous nous dites là.
Disons, je pense que le point commun, c'est clair qu'entre la littérature jeunesse et un livre qui parle de la pénétration dans les rapports hétérosexuels.
C'est le grand écart.
En même temps, c'est comme ça qu'on fait les enfants. Parfois, il y a d'autres manières. Il y a d'autres manières. Mais non, peut-être que le point commun, c'est la critique de la norme, qui est une norme souvent écrasante pour bien des gens. Et donc moi j'écris pour respirer, pour donner une respiration à plein de gens qui se retrouvent pas en fait dans cette norme, qu'elle soit la norme sexuelle, sociale, culturelle et tout ça. C'est moi j'écris pour les alliés en fait, pour un genre de voilà, pour ces gens-là.
Je me retourne vers les autres. Est-ce que écrire, alors Martin Page va encore me reprocher la complexité de mes questions, etc., etc. Mais peu importe, c'est comme ça, c'est comme ça que je l'ai préparé, et donc je vais continuer mon petit bonhomme de chemin. Est-ce qu'écrire, c'est défendre une cause ? Ben on peut, oui.
À la fois toujours et jamais, parce qu'il y a toujours un message dans les livres, mais les gens le prennent s'ils veulent. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Dans ma saga Scorpie, l'héroïne se fait harceler sur son lieu de travail. Et il y a une vraie morale dans ce qui se passe, puisque, bon, il se passe des choses, je ne vais pas vous raconter la fin, mais ça ne se termine pas comme on imaginerait avec un happy end et au final...
Donc, ce n'est pas si feel-good
voilà.
que ça, quoi.
C'est feel-good, mais d'une autre façon. Mm-hmm. Et il y a un vrai message derrière, mais les gens le prennent s'ils ont envie. C'est-à-dire que les gens qui se disent c'est juste un livre super drôle, sympa, où on s'amuse, pas de problème, les gens qui veulent prendre le message derrière le prendront.
Frédéric, pour vous, est-ce que écrire, c'est défendre une cause ?
J'ai pas l'impression. Après, il y a une telle part instinctive, moi, dans l'écriture, que j'aurais du mal à poser des mots aussi clairs dessus. J'ai pas l'impression de défendre des causes dans mes livres. Après, mes livres, ils sont fabriqués avec ce que je suis aussi, donc forcément, il y a des choses auxquelles je tiens qui sont dans mes livres. Est-ce qu'on va appeler ça des causes ? Je sais pas, j'en suis pas sûre. Il y a tellement de lectures et de lecteurs différents aussi que un livre comme Journal Pauvre a pu être lu comme une expérience de vie, mais a pu être lu aussi simplement de manière littéraire. En tout cas, mon intention n'est pas de défendre une cause. Mon intention, elle est littéraire. Elle n'est pas politique. Elle n'est pas. Elle est juste. Voilà, c'est juste de la littérature qui est faite avec ce que je suis.
Parce que si je pose cette question-là, c'est parce qu'effectivement, alors je vais peut-être me tromper dans le titre. C'est le journal de Max et Flora.
La folle rencontre de Flora et Max.
Voilà, la folle rencontre de Flora et Max. Moi, que j'ai lu. Alors, je suis pas le public destinataire, mais c'est comme ça. Je l'ai lu. Je l'ai lu d'une traite. Je pense que j'ai été fauché par ce livre-là. il m'a presque pris de court. Et c'est pour ça que je parle de... Quand je dis... Est-ce que c'est défendre une cause quand on écrit ? J'ai senti une détermination dans votre écriture par rapport au personnage que vous avez brossé. Ce jeune garçon qui est enfermé chez lui, cette jeune fille qui est enfermée dans une maison. Alors, c'est pas une prison, mais c'est elle est enfermée pour avoir commis des mauvaises actions. Mais j'ai senti chez vous une... Enfin, on sent en filigrane cette... l'envie d'exposer, de pas de défendre ces personnages, mais de nous les montrer et de nous montrer ce qu'ils les qualités intrinsèques qu'ils ont, la valeur qu'ils ont. Enfin, c'est pour ça que je parle de défendre une cause.
Oui, alors cause, c'est en même temps c'est un beau mot. C'est vrai qu'il y a une tradition littéraire française qui est le rejet du politique. Ça demanderait d'être analysé, ça demanderait des heures d'émission, ça demanderait beaucoup, beaucoup de choses. Il y a une histoire là-dedans, dans le rejet du politique. Alors que le politique, il est partout dans la littérature, il est aussi dans Schultz. Peanuts, vous connaissez Snoopy ?
Bien sûr, oui.
Ben, à un moment, il n'y avait pas de personnage noir dans Snoopy. Et ben, Schultz a dit, ben, tiens, il y aura un personnage noir. Ben, c'est un geste politique.
Tout à fait. Oui.
Et donc, moi, je ne suis pas pour dire que la politique et la littérature, ça ne devrait pas... D'ailleurs, ne pas mettre un personnage noir, ça aurait été aussi un geste politique. Résultat, il a reçu des lettres d'insultes, de menaces et tout ça. Moi, il n'y a pas de porosité entre le monde réel et la littérature. Donc, il y a de l'intime, du politique, il y a tout ce qu'on veut. Et c'est génial, cette ratatouille, d'une certaine manière. Juste une note, c'est... alors, je suis content que ce livre vous ait emporté. Alors, c'est aussi grâce au talent de ma compagne, Colline Pierret.
Qui est invitée aussi au salon.
Voilà, oui, qui est ma compagne, qui est une écrivaine que j'admire, et qui est aussi la co-directrice et co-créatrice des éditions Monstrographes. Voilà.
Eh bien, sur cette première séquence, je vous propose nous allons faire une première pause musicale avec un chanteur, lui, qui est bien d'ici.
J'ai vu mille fois mes horizons fanés, les missiles pulvériser mes belles années. J'ai vu trop de sang, de cendres et d'armes, et mes yeux abîmés n'ont plus de larmes. J'ai vu les chenilles broyer ma dignité, les bottes s'essuyer sur mon humanité. J'ai vu les miens emportés par la torture dormir dans des tombes derrière des murs. J'ai vu. Mais ne creusez pas trop vite ma tombe. J'ai appris à renaître après l'incendie, à sortir de la tempête debout et grandi. J'ai vu, je vois, je vis, je suis comme un défi à celui qui me nie. Et mon aube viendra si longue soit ma nuit. La liberté est un vent qui ne peut être détruit. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. J'irai cueillir de nouvelles pierres pour rebâtir ma maison plus belle qu'hier. J'irai planter des graines et le dimanche je regarderai les fruits vivre au bout des branches. Et ma vengeance sera le sourire de mes enfants. Le sourire de mes enfants. Le sourire de mes enfants. Et ma vengeance sera le sourire de mes enfants. Le sourire. Enfants.
De retour sur Radio G à la librairie Richer pour l'enregistrement public de l'émission Entre les pages, en compagnie de Frédéric Germano, Roxane Dambre, Martin Page et Nicolas Auvinet. Nous venons d'écouter Coal et sa chanson J'ai vu, qui n'est pas sans me rappeler un magnifique chanteur d'Armentières dans le Nord qui s'appelle Loïc Lantoine. Après la première partie de cette table ronde sur le thème écrire, je vous propose d'explorer maintenant le ici. Nous sommes en Anjou, dans le Maine-et-Loire, où le tuffeau règne en maître absolu, où l'ardoise est le dernier rempart à la tuile ronde italianisante, où la légèreté du gamay cohabite avec la rondeur du bonzo. Frédéric Germano, dans votre nouvelle Rouge Café, vous explorez l'île de Chalonne. Comment ce territoire, je parle de notre territoire, imprègne-t-il votre écriture ?
Vous êtes allé chercher un texte, un de mes premiers textes en fait.
J'essaye de faire mon travail, mais je vous expliquerai pourquoi. D'accord. Celui-ci.
Ouais, Rouge Café, c'est effectivement une nouvelle, on peut dire, qui se passe dans l'île de Chalonne, et plus particulièrement au Lénine Café, qui est un lieu qui m'a beaucoup marqué. Alors, je suis très sensible à la géographie, très sensible aux lieux, et pas que naturel d'ailleurs, aux personnages qui les habitent également. Je pense que ça a toujours été un de mes moteurs d'écriture, en particulier dans les premiers textes et ceux de la chambre d'écho. Et la question était, je me souviens plus.
Comment ce territoire imprègne-t-il votre écriture ?
Je crois qu'il l'imprègne de plusieurs façons. Il me sert, moi, d'étais ou d'appui dans mon écriture. J'ai besoin de paysages pour écrire, qu'ils soient vastes ou qu'ils soient restreints. J'ai besoin de ces conditions-là pour me mettre en écriture. Et la deuxième façon dont ça imprègne, c'est qu'en fait, Martin parlait de porosité, ces paysages passent aussi dans l'écriture en fait. Il y a beaucoup de textes où le paysage prend une place importante en fait. Les rivières notamment, les paysages d'Anjou évidemment puisque j'y suis, mais quand je suis amenée à me déplacer, on parlait de résidence pendant la pause musicale, j'ai fait une résidence à Sens et le Lyon et la Bourgogne voilà, sont venus coloniser comme ça les textes en cours d'écriture. Donc oui, j'ai une grande importance pour moi.
J'ai lu, au travers de ce que j'ai lu de vous, enfin, vous semblez beaucoup déambuler dans Angers.
Je marche beaucoup, où que je sois, oui.
Et donc, vos promenades d'Angers, elles vous emmènent où ?
Dans divers endroits. Alors, ça peut être. J'ai quelques lieux fétiches qui peuvent être, par exemple, du côté du parc Balzac ou du côté de l'île.
Saint-Aubin.
Voilà. Merci.
Il y a du public qui vous assiste. Il y a des gens qui suivent quand même.
L'île Saint-Aubin en particulier, parce que je ne sais pas, il y a quelque chose de magique dans cette micro-île et dans ce qu'elle a traversé au cours des siècles. Après, ça peut être aussi des marches urbaines. Hein. J'aime aussi l'urbain. J'aime revenir sur des lieux que j'aime. X fois jusqu'à l'épuisement, qui n'arrive jamais d'ailleurs.
Alors, une question qui s'adresse un peu à vous tous là. Où est-ce que vous vous installez pour écrire, Roxane ?
Physiquement ?
Oui, bien sûr. Mais ça peut être aussi complètement dans le rêve. Enfin, je ne sais pas. Où est-ce que vous vous installez pour écrire ?
Alors physiquement, alors moi j'ai, enfin ceux qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux le savent, je viens juste de lâcher mon travail salarié pour devenir auteur à plein temps, mais avant j'avais un travail salarié qui était quand même assez important, assez chronophage, donc en fait je peux écrire absolument partout. Je peux écrire dans le train, je peux écrire dans une voiture si c'est pas moi qui conduis, je peux écrire, je précise hein, parce que parfois il y a des gens qui posent la question, donc je précise, je peux écrire vraiment n'importe où, sur mon téléphone, sur un bout de carnet, voilà. Mais bon, ce que je préfère, c'est être assise à mon bureau, sur mon ordinateur et puis laisser courir mes doigts sur mon clavier.
Vous êtes... Alors, je peux révéler des secrets, mais vous ne m'en voudrez pas, puisque vous les avez rendus publics.
Ah, mon Dieu, attention.
Vous êtes une nouvelle angevine.
Oui, Ça fait 3 ans que je suis là.
Exactement.
Merci, bravo. Félicitations.
Tu viens d'où? Non, tu n'es pas obligé de le dire.
Je suis de région parisienne.
D'accord. Et donc, Roxane Dambre, vous écrivez ici, à Angers, mais je pense, moi, que vos motivations sont pour le moins troubles. Et d'ailleurs, je pense que la ville d'Angers, qui a inscrit sur sa la façade de sa gare « Première ville de France où il fait bon vivre », va vous en vouloir, puisque dès la deuxième phrase de votre présentation sur votre site, vous écrivez « Amoureuse de la province, elle finit par s'installer à Angers, où la pluie régulière l'oblige à rester chez elle pour écrire ses histoires bien au chaud. »
Et je pense que les 20 derniers jours me donnent raison.
Et donc la douceur angevine là-dedans, qu'est-ce que vous en faites?
Alors, je me suis renseignée sur la douceur angevine, et en fait, ça remonte à l'époque du roi René, parce que c'était la seule partie du royaume de France, qui n'était pas d'ailleurs dans le royaume de France à ce moment-là, mais c'était la seule partie d'Europe qui n'était pas en guerre. Et c'est pour ça qu'on parlait de douceur angevine, et ça n'avait rien à voir avec le temps, contrairement à ce que j'ai cru également quand je suis venue m'installer ici.
Parce que... est-ce que vous imaginez un cinquième volet de votre série Animae qui se déroulerait à Saumur, à Cholet ou à Angers?
Alors Animae non, mais par contre signé Sixtine. Les deux premiers tomes se déroulent à Paris puisque je suis de région parisienne à la base, mais quand je suis arrivée ici à Angers, j'ai fait comme tout le monde, j'ai commencé par aller visiter le château et j'ai vu les tapisseries de l'Apocalypse. Et je suis tombée amoureuse des tapisseries de l'Apocalypse. Et après il y a eu la balade du roi René et je suis tombée amoureuse de la balade du roi René. Le tome 3 de Signé Sixtine s'intitule « Le festival de l'Apocalypse » et il se déroule intégralement à Angers.
Bien. Donc vous êtes, quasiment, finalement, la ville d'Angers va vous pardonner. pour continuer sur cette veine-là, un territoire fait-il plus rêver qu'un autre? Martin Page.
Territoire intérieur.
Nicolas Ovinet ne soufflait pas les réponses.
C'était pas mal, merci. Est-ce qu'un territoire fait plus? Alors, pour moi, c'est pas. J'ai pas le problème de rêve ou d'inspiration. Tout ça. Pour moi, l'enjeu est pas là en fait. L'enjeu, c'est que alors, nous, on vient de Paris avec Colline, et ensuite on a habité Nantes. Et c'est deux villes qui sont assez dures, où les gens sont pas très très aimables. Et donc, ce qu'on a trouvé ici. Ouais, Paris, ouais, je trouve. En plus, on est proche de nos éditeurs et c'est un milieu aussi assez violent et mondain, etc., etc. Donc, c'est une bonne surprise parce qu'on trouve que les gens sont assez sont doux pour le coup ici.
Une certaine proximité, on le voit dans le bus.
Ouais, on part dans le bus. Tout ça comme si on était à Marseille. Donc, non, mais c'est vrai en fait, il y a quelque chose. Alors, il paraît que la grande bourgeoisie angevine n'est pas très sympa, mais je les fréquente pas, donc c'est pas très grave. mais en tout cas, non, mais c'est vrai que c'est agréable. Les gens parlent dans la rue, parlent dans les magasins, et c'est quelque chose que je rencontrais pas à Paris ni à Nantes. Donc ouais, les gens, il me semble qu'il y a une certaine bonté. Alors il faut relativiser. Hein, j'imagine qu'il y a plein de choses qui se passent mal, qui sont pas très sympas ici aussi. Mais en tout cas, c'est assez drôle parce que quand on dit aux gens qu'on habite Angers, les gens savent pas. Ça fait où ça se trouve, c'est un royaume un peu perdu quelque part, ils savent pas où c'est.
Près de Nantes et puis ça marche quoi.
Ouais, ensuite on parle de Nantes mais sinon avant Angers, mais connaissent le nom mais ils savent pas où c'est. Et c'est dommage, ou peut-être tant mieux, comme ça reste un peu secret. Mais en tout cas, nous ça a été une belle découverte parce qu'on a des métiers où on reçoit facilement des coups qui sont blessants, qui sont avec beaucoup de plaisir évidemment et de bonheur, hein, mais il y a aussi des choses dures dans nos métiers. Et donc d'être dans un environnement doux, si ce n'est au niveau du climat apparemment, mais dans les rapports avec les gens, c'est pour nous, ça nous sauve. Voilà, il y a des gens vraiment, ouais, des gens bons. Merci, voilà.
Frédéric, on ne dissipe pas Roxane, on ne dissipe pas, on reste concentré. Frédéric, y a-t-il, enfin. Ce territoire vous fait-il rêver particulièrement ou finalement, au gré de vos pérégrinations, d'autres territoires vous inspirent ou vous emballent, vous embarquent?
Je crois que je ferai une différence déjà entre faire rêver et ce qui est inspiration. Enfin, moi, le rêve n'entre pas dans la littérature. je suis vraiment dans un principe de réalité. Et je ne rêve pas de territoire et encore moins d'exotisme. Enfin voilà, tout ça, ça m'intéresse assez peu. Ce que j'aime, c'est habiter un lieu, en fait. Voilà, qu'il soit celui-ci, mais je peux habiter dans d'autres. Comme je disais, par exemple, voilà, j'étais à Sens, j'étais à Vézelay pour y passer des semaines d'écriture. Ce sont des endroits où j'ai écrit, mais ce sont des endroits que j'ai habité. Et pour moi, c'est ça qui est important, en fait. C'est de m'ancrer quelque part. Et j'ai pas du tout cette idée de rêver de rêver un territoire. Enfin, je suis plus dans l'exploration, plus dans le détail, dans ce goût du détail que dans le rêve.
Est-ce que les gens d'ici, est-ce qu'ils peuvent faire? Où est-ce qu'ils peuvent être, et je parle des gens d'ici, hein, de notre territoire, est-ce qu'ils peuvent faire ou est-ce qu'ils peuvent être littérature?
Alors, moi, oui, je dis oui.
Spontanément?
Très spontanément, parce que ils font littérature, enfin, que ce soit les gens, mais que ce soit aussi les arbres, les rivières, etc. Tout ça, pour moi, c'est de la matière première littéraire. On parlait de l'île Saint-Aubin tout à l'heure. J'ai écrit un texte autour du passeur, de ce monsieur qui dont la vie consistait à faire passer les gens d'une rive à l'autre. Voilà, la rivière doit faire 5 mètres de large. Et pour moi, c'est un personnage éminemment littéraire. Enfin, donc oui, là pour le coup, je réponds sans hésitation. Pour moi, c'est pas une question difficile.
D'accord. Et pour vous, Martin, est-ce que les gens d'ici, parce que vous êtes venu ici, vous semblez y avoir trouvé votre place dans ce territoire-là. Et est-ce que c'est les gens qui sont d'ici peuvent faire littérature?
Alors, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais pourquoi pas? Non, mais ici ou ailleurs, moi, j'ai pas du tout un fétichisme et du lieu, et sans doute parce que je viens d'un endroit qui est un genre de non-lieu, la banlieue sud parisienne, les immeubles et tout ça et tout. Donc, je veux dire, tout peut faire, peut aider à créer des personnages, peut donner des idées, en fait. C'est ce truc de Flaubert, en fait. Cette phrase de Flaubert que je ne vais pas pouvoir citer, évidemment.
Désolé, je ne vais pas pouvoir vous aider.
Non, mais c'est... je suis un peu fatigué. Non, mais l'idée, c'est... en fait, tout est intéressant, en fait. Mm. Du moment, c'est la manière dont on regarde les choses qui compte. Il n'y a pas d'être humain pas intéressant, il n'y a pas de territoire pas inspirant. Mm. Ensuite, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est plus que moi, j'apprécie la douceur des gens que j'encontre ici. Alors avec il y aurait certaines personnes pas très douces ainsi que j'ai rencontrées mais que je n'aimerais pas ici évidemment parce que je suis pas dans la polémique. Mais voilà.
Mm-hmm. Non, si je pose cette question et après je me retournerai vers Roxane Dambre. Si je pose cette question, c'est parce que c'est chez certains auteurs. Bon, je prends au hasard, mais peu importe, on pourra en prendre d'autres. Je prends au hasard Maupassant et Maupassant, on sait d'où il est. Enfin, quand on lit, on est pour peu qu'on ait traversé le pays de Côte deux ou trois fois. Quand on lit Maupassant, on a les pommiers, les maisons de briques. Voilà. C'est en ce sens-là que je veux...
Bah, moi, je pense que comme j'ai grandi en banlieue sud, ce qu'il y a chez moi, à moi, mes pommiers, c'était l'absence de pommiers, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a rien de remarquable, contrairement à la Normandie. Donc pour moi, mes pommiers, mon paysage, c'est plutôt le manque, l'absence, l'ennui, la laideur. Et absolument me tirer de ça... Et voilà, on trouve la rage et une certaine envie de mettre un peu de bazar, quoi. C'est ça. Voilà.
Et donc, est-ce que finalement, l'endroit où vous êtes aujourd'hui, puisque vous avez quitté, vous êtes parti, vous êtes éloigné, est-ce que finalement, cet endroit représente presque, alors à la manière de Stieg Dagerman, une consolation?
Ouais. Alors, calmons-nous, hein. C'est pas... Angers n'est pas non plus un médicament curatif. J'adore. C'est pas Rio non plus. Hein. Non mais j'adore, j'aime beaucoup. Mais ouais, il y a peut-être quelque chose de cet ordre. Alors, moi, ma ville de cœur, c'est une ville que je connais pas très bien. Finalement, c'est Strasbourg. parce que c'est une ville qui a une identité forte, parce qu'il y a la présence de plusieurs religions, il y a quelque chose de très... aussi, les gens sont assez doux là-bas, la proximité de l'Allemagne et tout ça. Mais consolation, c'est un mot peut-être un peu fort, mais en tout cas, on se trouve bien ici. En plus, on est désiré, on a des contacts avec des gens. Nicolas nous invite. Non, mais c'est vrai, ça compte de se sentir désiré et salué, de voir qu'il y a des liens entre les écrivains et les auteurs, et les, je sais pas, les librairies, les bibliothèques, la médiathèque, tout ça. On a des liens avec eux et tout ça. Nous, quand on habitait Paris ou Nantes, on n'avait pas eu tous ces liens, par exemple. Souviens, à Nantes, j'avais été invité deux fois à Ermeland, qui est la fantastique médiathèque de Saint-Herblain, mais jamais à Nantes. Donc, même s'il y a des bibliothécaires, pour le coup, des libraires de Nantes qu'on aime beaucoup. Donc, ouais, il y a quelque chose de doux ici, de chouette, de curieux. Voilà.
Et pour vous, Roxane, donc, puisque vous êtes un peu comme Martin, une immigrée, l'Anjou est une terre d'accueil, donc ça ne pose strictement aucun souci. Est-ce que pour vous, les gens d'ici, est-ce qu'ils peuvent faire ou être littérature ?
Bah, du coup, comme je suis une immigrée comme Martin, je vais vous faire un peu la même réponse que Martin.
Oui.
Je pense que tout est sujet à faire une bonne histoire. Et en fait, j'ai presque déjà répondu à la question précédemment, puisque entre le château, l'histoire d'Angers, l'histoire... maintenant, j'habite au Pont-de-Cé. Depuis peu, j'habite au Pont-de-Cé.
Ah oui, donc
l'histoire,
la banlieue.
Voilà, la banlieue, la grande banlieue d'Angers. Voilà, toutes ces histoires, tout l'historique et tous les gens qui sont passionnés par l'histoire. Quand on voit l'abbaye des filles, par exemple, c'est incroyable, tous ces gens qui sont investis dans l'histoire de leur région et dans l'animation, tout ça. Donc oui, ça donne totalement matière à histoire, ça donne matière à littérature.
Je viens de voir... Là, on est vraiment dans la plus grande familiarité. On se fait des petits coucous, des petits bonjours. Alors, oui, tout à fait. Peut-être que je vais me retourner vers le public et savoir si certains voulaient poser des questions à nos invités. Vous levez la main et je vous tends le micro. Non ? Oui ? Personne ne veut prendre de risque ? Non ? Eh bien, Nicolas, il y a une question ?
Bonjour Inès, grande fan de l'émission. Alors,
ah, c'est la technicienne. Oh.
je m'incruste. Non, c'était pour poser la question. Moi, je voulais poser comme question à tout le monde un petit peu. Tu as déjà posé la question sur l'implantation dans le territoire. Et moi, je voulais poser la question sur la manifestation d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu décrivais ça comme le journal, la manifestation littéraire la plus rapide du monde. Mais du coup,
salon le plus court. Le rapide,
salon le plus court. Mais du coup, c'est un plaisir d'être au... Quelle est la différence, en fait, entre, par exemple, faire une grande tournée où on irait rencontrer des gens qu'on connaît pas et être dans une ville où, du coup, les gens qui vont peut-être venir signer leur livre, c'est des gens que vous avez peut-être croisés après à la boulangerie ou que vous allez voir dans les parcs, des choses comme ça. C'est quoi cette différence avec le public quand on est implanté dans son territoire ?
Très bonne question.
Pour moi, il n'y a pas trop de différence. Non, mais c'est toujours un rapport humain. Donc, non, je ne vois pas de différence. J'ai un plaisir aussi à aller dans telle ou telle ville et de rencontrer des gens que je ne connais pas ou recroiser des gens que je connais ici. J'aime bien les êtres humains. Je suis un misanthrope qui aime bien les êtres humains.
Et pour vous, alors, Roxane, sur cette question-là ?
Alors, Angers n'est pas du tout un village. Hein, donc, les gens que je croise ici aujourd'hui, je n'ai aucune chance de les recroiser à la boulangerie. Mais ce que j'apprécie particulièrement dans ce salon... C'est que déjà, on connaît les têtes. Quand on arrive, on dit bonjour, c'est vachement sympa. Et puis, il n'y a pas 7 heures de trajet, quoi. Ça, c'est génial.
Et vous, Frédéric ?
Oui, il y a le plaisir de l'accueil ici, forcément. Enfin, voilà, d'être accueilli avec le sourire, l'enthousiasme, déjà, c'est énorme. Et puis, le fait qu'il soit à Angers, ça permet quand même de faire signe aux amis qui veulent passer, puis qui viennent discuter. Voilà, c'est la petite différence avec des salons où on connaît personne.
Nicolas Auvinet, vous dirigez cette librairie et vous travaillez avec une belle équipe, il faut le dire. Enfin, en tout cas, moi, c'est je vrai. Remercie l'accueil qui nous a été réservé. C'est vraiment très, très agréable. Comment, face à toute l'offre qui existe, moi, je sais que quand on a fait notre émission de...
de rentrée littéraire, parce que attention, hein, entre les pages on s'y croit. Donc on a fait une émission sur la rentrée littéraire en Anjou et on avait référencé quand même 28 nouveautés, ce qui est quand même pas mal. Comment on fait pour aborder toute cette production, la production de ce territoire quand on est libraire?
Alors il y a dans un premier temps les auteurs que nous connaissons déjà, donc lorsque le représentant de la maison d'édition vient nous présenter le catalogue, déjà il y a des auteurs qui font écho de suite et on retient. Le critère pour nous, en tout cas pour ce salon-là, je disais, c'est qu'il y ait une nouveauté, qu'il y ait une nouveauté dans l'année, ce qui permet quand même de sélectionner aussi malgré tout des auteurs, parce que sinon on pourrait agrandir cette liste d'auteurs, parce qu'il y a beaucoup d'artistes, d'écrivains en Anjou. Et par la suite, c'est soit les auteurs qui viennent nous voir aussi, et ça nous permet de faire notre sélection. Notre sélection aussi se fait, on parlait de plaisir tout à l'heure. Où est-ce qu'il est le plaisir? Le plaisir est multiple. Moi, pour ma part, ça va être des livres qui vont me déranger. Ça va être des livres qui vont me bousculer, donc qui vont me questionner sur moi. Je vais faire un petit peu une réponse qui va répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées aux auteurs. Non pas que je sois écrivain.
Finalement, l'émission n'a servi à rien.
On va faire rapide. Non, pas du tout. Mais c'est que je vais me positionner plutôt en tant que lecteur. Pour ma part, c'est paradoxal parce que j'invite les auteurs ici. Mais moi, je m'en fiche de presque de ce que fait l'auteur, de ce qu'est l'auteur, de là où il vit. Je vais me retrouver ou pas dans les livres, dans les sujets qui vont me toucher. Je vais être dérangé ou pas dans le verbe que va développer l'auteur. Et c'est tout ça, en fin de compte, pour revenir à la question, c'est des auteurs comme ça qui vont nous interpeller, nous toucher. Et puis on est une équipe quand même, malgré tout, de 20 libraires. Et ça nous permet d'avoir un panel quand même assez large. Et puis de se dire, il faut penser à tel auteur. Et on regarde, il y a une proportion assez équilibrée entre les auteurs de littérature, les auteurs de la poésie, des polars, des romans historiques, des romans de régionalisme, des auteurs de jeunesse, des illustrateurs, c'est assez équilibré en fait. Et on voit que les choses sont plutôt bien faites et je m'en félicite, mais il est vrai, je remercie énormément mon équipe qui est formidable.
Est-ce que, pour revenir, parce que malgré tout, on est dans la manifestation qui s'appelle le Richer 49, est-ce que pour vous, malgré tout, c'est important la promotion de ce qui se produit ici?
Oui. Vous parliez de la rentrée littéraire juste avant. On est dans une course effrénée à la nouveauté. Dès le mois de mai, voire même pas avril, par certains éditeurs, on nous envoie tous les services de presse. Vous savez, ces fameux livres blancs, il n'y a aucune couverture, il n'y a rien. Et puis, il y a le trésor, comme ça, on regarde. On se précipite, on lit beaucoup de livres. Et finalement, avec du recul, on se dit, mais on reçoit aussi beaucoup d'auteurs à la librairie pour des rencontres, pas forcément des auteurs locaux, bien entendu. Et à un moment donné, on a fait un petit pas de côté, on s'est dit, mais c'est quand même dommage de ne pas donner une tribune à tous ces auteurs de qualité, qui sont en Anjou, que les gens ne connaissent pas forcément. Et c'est l'occasion, ce genre de salon, de dire, oui, ce nom me dit quelque chose. Les lecteurs viennent à la librairie, se disent, et puis découvrent à travers notre site internet, à travers le petit livret que nous produisons, et puis ce salon-là, de découvrir toute la richesse de notre patrimoine local.
Merci, nous allons faire une petite pause musicale. Vous êtes toujours sur Radio G dans l'émission Entre les pages. Je vous rassure tout de suite, aucune personnalité importante n'est décédée. Là, j'ai juste choisi ce titre. J'ai juste choisi ce titre du groupe Des Lions pour des Lions parce qu'il est, c'est un groupe qui est d'ici et que son projet est soutenu par nos amis du Shabada. Je trouve leur interprétation de la marche d'Henri Purcell élégante et subtilement décalée. Dans les rendez-vous à venir, je suis sûr que vous ne m'en voudrez pas, Nicolas Auvinet, si nous annonçons des propositions de votre confrère de la librairie Itinérance.
Alors du coup, le samedi 23 novembre, de 15h à 18h, il accueillera François Ginet pour la dédicace de son livre « En terre des ombres » qui traite de la situation des aborigènes en Australie. Le samedi 30 novembre, de 15h à 18h, il accueillera également Bernard Germain pour la dédicace de son « Dico Vertigo » aux éditions Paulsen, dictionnaire de la montagne du cinéma, qui couvre 100 ans de cinéma et décrit plus de 500 films. La librairie Itinérance, c'est 62 rue Baudrière à Angers. Et puis les 7 et 8 décembre prochains, le festival Angers BD au Palais des Congrès de Angers. Au cours de cette émission, vous avez pu entendre « J'ai vu » de Coal, la marche pour les funérailles de la reine Marie de Henri de Purcell, interprétée par le groupe Des Lions pour des Lions, et le générique est encore et toujours de Tilassine.
Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les pages, sur le site de radioG.org. Merci à vous, Frédéric Germano, Roxane Merci. D'Ambre, Martin Page et Nicolas Auvinet.
Merci. Merci.
Et
Merci
à vous. Je vous souhaite de bonnes signatures pour la fin de la journée. Merci au public d'être venu assister à cet enregistrement. Et maintenant, générique.